Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonsresources.gouv.fr/collectivité.
BFM Business et Tech & Co présente De quoi je me mêle, François Sorel.
Un grand bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là. Merci d'être fidèle à De quoi je me mêle, que ce soit devant votre écran ou alors en podcast audio. Vous êtes toujours très nombreux, de plus en plus nombreux à nous retrouver le week-end. Merci encore pour cela. De quoi je me mêle, une petite heure dédiée à l'actu tech, avec pour ce nouveau numéro tout à l'heure un point complet sur peut-être le vrai départ de la maison connectée. C'est ce protocole Matter qui, en fait, est un peu magique puisqu'il va permettre de connecter quasiment n'importe quel objet de n'importe quelle marque à un hub qui va faciliter les choses pour nous, en fait, utilisateurs. On en parlera avec un spécialiste, quelqu'un qui met les mains dans le cambouis, comme on dit. Il s'agit d'Albert Bouchoucha, qui est un expert dans ce domaine. Il sera avec nous en deuxième partie de quoi je mêle pour nous expliquer tout ça. Je vous rappelle le hashtag DQJMM si vous voulez réagir à tout ce qu'on raconte sur Twitter, entre autres, ou même sur Facebook. Merci d'être là encore une fois et bienvenue. Anthony Morel vous a manqué la semaine dernière ? Eh bien, vous savez quoi ? Je vous livre Anthony Morel sur un plateau. Bon, alors, c'est un plateau télé, mais c'est déjà pas mal. Salut, Anthony.
Salut, François. Très bien lancé, hein, vraiment. J'espère que je vous ai manqué.
Mais bien sûr, évidemment. Tu sais, on s'habitue et c'est vrai que avoir ton expertise sur l'actu tech que tu vis au quotidien sur BFM Business, entre midi et deux sur RMC, ben ça a une valeur.
Bah c'est super.
Et le fait
gentil
de retrouver tout ça en fin de semaine avec toi, c'est top.
Mais moi, ça me permet de remettre mes idées, tu vois, de classer les idées aussi, parce que souvent quand t'es dans le flux de l'actualité,
sûr,
tu sais, t'es un peu la tête dans le guidon, tu fais des trucs et tout. Et puis de quoi je me mêle, tu te poses, tu dis alors attends, c'était quoi les grandes thématiques cette semaine? Tu mets ça en lien avec ce que tu avais fait les semaines précédentes et tout. Et en fait, ça te permet de hiérarchiser, de trier. Donc, c'est un vrai atout aussi pour nous.
Ouais, c'est ça. Et puis, ce qui est cool, c'est qu'on a le temps dans De quoi
exactement.
On prend le temps parce que c'est vrai que.
Allez, chronique,
en tant que chroniqueur de matinale, effectivement, ouais. tout est compté. Là, c'est top. On prend le temps et on peut aller un petit peu plus loin. Dans l'actualité, aujourd'hui, on va commencer par ChatGPT. Vous le savez, cet outil d'intelligence artificielle conversationnelle qui est dans le feu des médias. Tout le monde parle de ça.
Ouais.
Hein. Je veux dire, les médias généralistes mainstream se sont emparés de ce truc-là. C'est incroyable. Et donc, ChatGPT, évidemment, tu en parles souvent.
Ouais, bien sûr.
C'est logique.
Ouais. Mais c'est vrai qu'on a t'as raison de dire que tous les médias en parlent. C'est-à-dire que je pense qu'on n'avait pas vu ça en termes d'adoption d'un outil technologique qui est quand même assez pointu, enfin la technologie sous-jacente est assez pointue. Je pense qu'on n'avait pas vu ça depuis des années, je sais pas, j'allais dire peut-être depuis l'iPhone, mais et après t'as eu l'arrivée des grands réseaux sociaux, mais sinon si tu veux c'est vraiment hyper hyper rapide. Je voyais que les chiffres d'adoption étaient complètement fous, c'est-à-dire qu'en termes de rapidité on était plus rapide que par exemple des sites de streaming comme Spotify, donc des trucs très grand public, et donc ChatGPT qui a eu des millions d'utilisateurs en l'espace de quelques jours là.
C'est rigolo parce que tu sais on parle souvent, on nous dit, oui, il n'y a plus d'innovation de rupture, etc. Est-ce que ce n'est pas justement l'une de ces nouvelles innovations de rupture?
Ah, pour moi, oui. Ouais, pour moi,
on est d'accord,
clair.
Hein, quand
moi,
même. Hein.
Écoute, on en teste beaucoup, toi et moi, des innovations. Donc, il y a toujours ce truc de l'effet waouh, le truc qui vraiment te fait dire, là, il y aura un avant et un après. Je n'ai pas vu ça depuis des années. ChatGPT, moi, ça m'a fait cet effet-là. Tu vois, la grande majorité des objets ou des services ou des applications qu'on teste, tu te dis, ouais, c'est intéressant, c'est pas mal, c'est des innovations,
oui,
ce qu'on pourrait appeler incrémentales. C'est-à-dire
ça,
que tu as une petite avancée par rapport à ce qui existait déjà. Là, moi, franchement, ça faisait longtemps que je ne m'étais pas dit, là, ça va vraiment changer quelque chose, ça va changer la vie des gens. C'est-à-dire que vraiment, il y a une utilité réelle. Et puis, il y a un effet, tu te prends une claque quoi, quand tu commences à l'utiliser, que tu commences à dialoguer avec le chatbot et qui commence à te répondre en langage naturel. Enfin, tout le monde a été bluffé. Je ne connais pas une personne qui n'ait pas été bluffée, à part peut-être Yann Lequin, dont on parlera tout à l'heure.
Oui. Bon, lui, il a peut-être une raison de ne pas être bluffé, ou en tout cas, peut-être de, comment dirais-je, de noyer le poisson. Alors, ChatGPT, ok, vous avez sans doute essayé. Encore une fois, on vous invite à tester. Attention, ce n'est pas facile parce qu'il y a tellement de monde qui se connecte sur ce site que parfois, on a des requêtes qui ne marchent pas.
C'est frustrant.
C'est frustrant.
Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils lancent leur modèle payant.
C'est ça, parce que, bien sûr, ça coûte une fortune. Je crois que c'est 3 millions de dollars par jour, en fait, de coût de fonctionnement.
De maintenance, de fonctionnement, les serveurs.
Le cloud, etc. La puissance processeur. derrière, parce que imaginez, hein, quand vous posez une question, derrière vous avez des processeurs qui tournent pour essayer de vous donner l'information au plus juste. Et donc, première info, donc, on devrait avoir, enfin ça commence...
Ouais.
Dans, je crois que c'est testé, hein.
C'est testé,
une version
ouais.
payante de ChatGPT.
Une version payante. Donc, si vous voulez profiter de la version gratuite, profitez-en encore maintenant, tant qu'il est encore temps, puisqu'effectivement, bientôt, ce sera payant. Alors, payant, en fait, il y aura deux options. C'est-à-dire que, si je comprends bien, tu auras la version « je prends la nationale » ou « je prends l'autoroute ». C'est-à-dire, je prends la nationale, mais ça peut être encombré et je n'ai pas la priorité sur le réseau. Ouais. Et globalement, quand il y a un pic...
Tu as le temps de voir le paysage.
Tu as le temps de voir, c'est vrai. Mais des fois, c'est un peu, voilà, tu t'ennuies un peu aussi, tu vois. Et c'est vrai que quand il y a des pics d'utilisation, bah, tu n'auras pas la priorité, clairement. Et ceux qui acceptent de payer, évidemment, eux auront la priorité.
Ils auront des serveurs dédiés, je pense.
Évidemment, évidemment. Ce qui est une manière maligne de monétiser aussi le modèle. C'est vrai qu'on pouvait se demander. Alors, c'est jamais la priorité, hein, en général, dans la Silicon Valley. C'est d'abord l'usage, faire grossir la base d'utilisateurs, et ensuite, on essaye de gagner de l'argent. Là, ils se disent, on va quand même monétiser assez rapidement. Ils auraient pu aussi mettre de la pub, ça aurait pu être une option. Là, ils préfèrent cette option freemium, qui est assez intéressante, je dois dire. Je pense que, par exemple, il y a beaucoup de gens qui ont eu l'utilité dans leur vie quotidienne, y compris pour la productivité dans leur travail de ChatGPT, qui vont être très heureux de payer un abonnement tous les mois. Hein.
Et ça sera très rentable de dépenser 5 euros ou 5 dollars pour pouvoir se servir de ce truc-là, qui fait gagner en productivité pas mal de secteurs, hein, et qui va sans doute révolutionner pas mal aussi de métiers. Alors, ce qui est intéressant, c'est que l'intelligence artificielle qui est développée dans ChatGPT, c'est plusieurs briques technologiques qui viennent d'un peu partout. Il y a du Google, par exemple, dans ChatGPT avec le système Transformer. Mais malgré tout, Google se sent vraiment lésé avec cette histoire-là, parce qu'on sait que depuis des années, Anthony, Google est dans l'intelligence artificielle. C'est sans doute la boîte qui investit le plus là-dedans. Eh bien, ils se sont fait doubler par OpenAI et ChatGPT. Et je pense qu'ils ont mal digéré l'histoire.
Ah, il y a de quoi être un peu frustré. Et tu as vu ce qu'ils sont en train de faire. C'est qu'ils sont en train de faire revenir... les héros, Sergey Brin, Larry Page. Moi, ça me fait penser à Avengers.
Ouais,
tu vois, c'est vraiment
c'est
face à la menace mondiale.
Ouais.
Les deux héros à la retraite reviennent. Et c'est un peu ça. C'est-à-dire que Sundar Pichai, le patron de Google, patron actuel, eh bien, a visiblement, c'est le New York Times qui révèle ça, rappelé Sergey Brin et Larry Page, qui ont lâché toute fonction opérationnelle en 2019 pour superviser, encadrer la riposte à ChatGPT. Alors cette riposte, clairement, ils ne partent pas de nulle part, hein, Google. Alors c'est vrai qu'ils se sentent menacés. Pourquoi ils se sentent menacés? Parce qu'évidemment, un outil comme ChatGPT, ça remet en cause l'utilité d'un moteur de recherche tel qu'il existe aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'usages du moteur de recherche où si je peux avoir une réponse en langage naturel et avec une réponse très claire où je n'ai pas besoin de cliquer sur 12 liens hypertextes dont je ne connais pas tellement la fiabilité, je vais plutôt utiliser ce modèle-là, en fait. Et forcément, Ça représente une menace pour eux.
Mais je pense que c'est d'autant plus rageant pour Google qu'ils avaient dans leur tiroir, sans doute tout aussi bien, voire mieux. Et ils se murmurent que finalement, ils attendaient le bon moment pour appuyer sur le bouton, parce que, étant donné que c'est une boîte qui est mondialement connue et qui a un impact en fait sur la société, ils avaient peur en fait de balancer ça comme ça, de lâcher ça dans la nature et de se prendre des coups de bâton partout parce que tout le monde les aurait pointé du doigt avec ce nouvel outil, non ?
Ce qui est tout à fait compréhensible, hein, parce qu'effectivement, autant pour une boîte comme OpenAI, ça ne prête pas vraiment à conséquence. C'est-à-dire que si tu sors un outil comme celui-ci, et même qu'il y a 2-3 dérives, parce qu'il y en a, tu vois, même sur ChatGPT, on l'a bien vu, tu peux lui demander des trucs. Alors, il n'est pas censé répondre à des questions illégales, mais bon, si tu bidouilles un petit peu, si tu contournes, tu peux quand même obtenir des réponses. Si c'était Google derrière ça, ou si c'était Meta, ou si c'était Microsoft, tout de suite, on leur aurait volé dans les plumes, parce que c'est des grandes entreprises, et qu'en gros, elles n'ont pas vraiment le droit à l'erreur. Donc, ChatGPT avait, de ce point de vue-là, un avantage. Et tu as raison de dire que Google, clairement, ils ont des outils dans les tiroirs. Simplement, là, ils vont être forcés d'une certaine manière à accélérer leur calendrier. Et d'ailleurs, on le sait, hein, ils ont au moins deux outils sur lesquels ils travaillent. Il y a DeepMind, donc, qu'on connaît bien, c'est leur filiale intelligence artificielle qui avait battu le champion du monde de jeux de Go, le champion, alors il y a des champions de poker, de StarCraft, hein, il y a tout un tas de jeux comme ça. Et donc, ils travaillent sur un outil qui s'appelle Sparrow, qui visiblement serait un concurrent de ChatGPT, mais avec un mode justement plus éthique, c'est-à-dire que quand il te donne une réponse, il te donnerait aussi les sources qui ont servi à composer cette réponse. Donc ça, c'est déjà un élément intéressant. Et puis, ils ont en interne aussi un outil sur lequel ils travaillent, dont on avait déjà parlé, qui s'appelle Lambda, L-A-M-D-A, qui est aussi un outil conversationnel et qui avait fait pas mal parler de lui. C'était au moment, tu sais, de cet ingénieur qui s'était fait virer de Google parce qu'il était convaincu que justement cette intelligence artificielle était devenue consciente, c'est-à-dire qu'elle était tellement, tellement réaliste dans ses réponses que lui était persuadé qu'elle avait pris une forme de conscience. Bon, évidemment, c'était du délire, mais bon, oui. Quand tu te dis que même un mec aussi cortiqué, aussi, oui. J'allais dire, les mains dans le cambouis, qu'un mec qui bosse sur l'intelligence artificielle
se fait gruger. Par son invention, en quelque sorte.
Tu te dis
ça
que...
Ça fait un côté un peu Frankenstein. Hein,
complètement, complètement. Et donc, ça veut dire qu'ils ont en tout cas des outils dans les tiroirs et qu'ils vont les sortir. Mais je trouve que c'est très intéressant parce que ça pose toute la question de l'innovation. C'est-à-dire, qui est l'innovateur ? Est-ce que c'est celui qui a des technologies dans ses tiroirs, dans les laboratoires de recherche ? Ou est-ce que c'est celui qui propose un produit utilisable par le grand public ? Parce que c'est ça, ChatGPT. Enfin, genre, on l'a tous utilisé, tu l'as utilisé, moi aussi. C'est aussi ça, sa force, quoi. Tu as aujourd'hui des programmes qui sont dans tous les laboratoires de recherche de tous les grands groupes technologiques. Et c'est pour ça qu'on parlait de Yann Lequin tout à l'heure. Parce que tu as vu, il y a eu une petite polémique. Donc Yann Lequin, pour ceux qui ne voient pas, c'est le
pape de l'intelligence artificielle chez Facebook.
C'est ça, exactement.
Et d'une manière générale, quelqu'un qui est une sommité dans l'intelligence artificielle en général.
C'est un pionnier mondial du machine learning, c'est une figure qui est extrêmement respectée.
Il est français.
Français, il est breton.
Il représente, il a toute une équipe d'ingénieurs qui ont pignon sur rue dans ce domaine, et Facebook a réussi à les embaucher il y a quelques années de cela. Hein.
Exactement. Et en fait, là, cette semaine, donc sur Twitter, Yann Lequin s'est fendu d'une série de tweets pour expliquer que ChatGPT, finalement, ne l'impressionnait pas tellement, que c'était un truc bien ficelé, mais qu'il n'y avait rien de révolutionnaire quand on mettait les mains sous le capot, finalement. Et que, en fait, ces technologies, elles existaient depuis longtemps chez Meta, chez Google, etc. Et il s'est fait tomber dessus à bras raccourcis, puisque c'est Astérix en ce moment, par tout un tas d'internautes, et y compris des gens un peu technophiles et tout ça, en lui disant « Ouais, non, mais c'est parce que t'es frustré, t'aurais voulu sortir le produit avant, etc. Et » Et lui, en fait, moi, je remets pas du tout en cause sa parole à Yann Lequin. Je pense que réellement, il a raison sur le fait qu'il y a sûrement des produits en interne qui existent et qui sont même peut-être plus performants que ChatGPT. Simplement, là, la force d'OpenAI, ça a été de sortir le produit. Quoi. Voilà, tu vois que de la même manière qu'avant l'iPad, tu avais des tablettes Arcos et puis tu avais des tablettes qui existaient partout dans les laboratoires de recherche.
Oui.
Mais c'est Apple qui a pris marché.
La tablette, mais ils ont révolutionné l'objet, en
exactement,
quelque sorte.
Exactement.
Et voilà, et c'est un peu la recette magique de plusieurs technologies, hein, ChatGPT, et ça fait la blague,
Exactement, ça fait la blague, c'est la bonne expression.
Exactement, et on peut dire aussi, alors Yann Lequin, qu'on respecte énormément, hein, et on sait qu'effectivement, il doit travailler sur des choses beaucoup plus performantes que ça, doit se sentir quand même un peu frustré, parce que j'imagine qu'il aurait aimé avoir un peu cet outil chez Facebook, parce qu'on a parlé de Google, mais Facebook investit énormément d'argent là-dedans aussi, parce que on peut imaginer que des outils conversationnels dans Facebook, dans WhatsApp, dans Instagram, etc., ça aurait du sens.
Évidemment, mais tu vois, on revient à ce qu'on disait juste avant, c'est-à-dire que je pense que le risque pour une entreprise comme Meta ou comme une entreprise comme Google est beaucoup plus grand que pour OpenAI, et du coup leur grande crainte, tu sais, c'était à la fois que la propagation de fake news, tu me diras, Facebook, ils sont pas à ça près, parce qu'il y a quand même des fake news qui circulent, mais enfin, c'est des reproches en tout cas qui leur sont faits, et c'est vrai que même ChatGPT, tu vois, aujourd'hui, c'est aussi, faut le dire, c'est un outil qui est très spectaculaire, mais qui dit aussi beaucoup de conneries. Hein. Enfin, il y a vraiment des trucs, il le dit avec énormément d'aplomb et de conviction, mais simplement, des fois, il y a des énormités. Moi, je regarde pas mal de trucs, il y a beaucoup de gens qui publient leurs captures d'écran et tout. Tiens, un truc tout bête, je voyais ça tout à l'heure. C'est un mec qui demande à ChatGPT combien font 5 plus 2. Donc ChatGPT dit ça fait 7. Et le mec dit non, parce que ma femme, elle dit toujours que ça fait 8. Et ChatGPT dit peut-être que votre femme se trompe ou a mal compris l'énoncé parce que 5 plus 2 font 7.
Et le gars dit.
Jusque-là, il tient la route. Et le gars lui dit non, parce que ma femme a toujours raison. Et là, ChatGPT change d'avis. Ah bon, si votre femme a toujours raison, alors c'est peut-être 5 plus 8, 5 plus 2 font peut-être effectivement 8.
C'est fou ça. Alors, est-ce que c'est de l'humour ?
Mais je crois pas en fait. Je crois que tu peux réussir à retourner l'intelligence artificielle. Quoi. Et donc, du coup, si c'était Google ou si c'était Meta, je pense que ça leur serait reproché de manière beaucoup plus vive que si c'est OpenAI.
Quand on fait le point et qu'on voit voilà ce que apporte ChatGPT, quand on voit que Microsoft investit 10 milliards dans OpenAI, quand on voit que Google prépare sa riposte, 2023 pour Google, ça va être... Ils annoncent plus d'une vingtaine en fait, d'innovations sur l'intelligence artificielle Google, parce qu'ils ont plein de trucs dans les cartons, ils vont tout balancer. Quand on voit Facebook aussi, est-ce que finalement... On ne se retrouve pas avec une espèce de, alors j'exagère un peu, mais boîte de Pandore qui a été ouverte avec ChatGPT. Et maintenant, on va rentrer dans le dur. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle conversationnelle, celle qui nous impressionne, va s'accélérer de manière exponentielle avec cette concurrence qui était pour l'instant assez gardée, assez contenue, finalement.
C'est clair.
Voilà, est-ce qu'on ne va pas se retrouver là avec une année 2023 où ça va être une surenchère en fait, d'intelligence artificielle ?
Ouais, je pense. Je pense qu'il va y avoir une masse de sorties de produits. C'est pour ça que ChatGPT, c'est un élément, mais il va y en avoir plein d'autres. Et en fait, quand tu parles de boîte de Pandore, je trouve que c'est la bonne expression parce que ça va ouvrir en fait, plein de sujets sur... éthique, philosophique,
économique, sociale,
juridique. Enfin, vraiment, ça va être des questions sans fin, en fait. Enfin, on en parlait la semaine dernière avec le fait que maintenant, ça favorise la triche à l'école. Bah, effectivement, oui, c'est vrai que moi, je pense que les devoirs à la maison n'ont plus de sens à l'heure de ChatGPT parce que tu peux juste tout faire par une IA. La justice aussi, absolument. ChatGPT, ils lui ont fait passer l'examen d'un des MBA les plus prestigieux aux États-Unis. T'as vu ça ?
Et en fait, il avait entre 10 et 12 et demi, je crois.
Il a passé, en fait. Quoi.
Il a
passé l'examen. Donc, tu te dis, si on en est là, effectivement, ça n'a plus tellement de sens. Juridique, t'as raison, parce qu'effectivement, ça va être des outils qui vont être utilisés, y compris dans les tribunaux, comme assistant juridique. Ça va révolutionner la vie des avocats, peut-être la vie des juges également. Même dans plein de métiers, tu vois, on le racontait, mais voilà, les développeurs informatiques qui font corriger leur code par ChatGPT, enfin... tout va être bouleversé, tu vois. Même notre vie à nous, on peut lui demander de préparer une interview, il te prépare l'interview. Enfin, qu'est-ce que tu veux faire ? On peut pas lutter contre
non,
ça.
Non.
Tu vois, on va pas supprimer ses outils.
Et puis surtout, lutter n'a aucun sens. Il faut simplement embrasser tout ça, essayer de s'adapter en fait à ce nouvel outil, essayer d'apporter peut-être un petit peu plus de valeur ajoutée humaine en quelque sorte.
Mais c'est compliqué parce que je pense que vraiment tous les champs d'activité sont potentiellement concernés. Il y a un champ qui est particulier. Enfin, particulièrement non, mais qu'on aurait pu penser épargner, c'est celui de l'art. Et en fait, on se rend compte que même le champ artistique, l'intelligence artificielle est en train de tout bouleverser. Alors, on parle de ChatGPT, mais il y a un autre outil que tu as utilisé aussi, je pense, c'est Midjourney.
Ouais.
Je ne sais pas si tout le monde connaît Midjourney. Mais...
Alors, vas-y, explique ce que c'est.
Bah, Midjourney, en fait...
Il y a l'équivalent chez OpenAI qui s'appelle DALL-E. Hein.
Oui, voilà, exactement. DALL-E, c'est la même chose. Et en fait, c'est des outils qui, à partir d'un texte que tu leur écris, va te faire une proposition artistique. Donc, en gros, il va dessiner tes idées, d'une certaine manière. Et c'est vrai que le résultat est incroyable.
Ouais, ouais.
Incroyable.
Tu dis, voilà, je sais pas moi, par exemple, un lézard avec un parasol.
Ouais.
Bah, il va te faire 4 ou 5 photos avec un lézard différent à chaque fois, un parasol différent, dans un contexte différent. On peut aller plus loin, un lézard sur la plage avec une mer rouge, enfin, n'importe
dans
quoi.
Dans le style de Monet, tu vois, tu peux lui demander d'imiter le style de quelqu'un.
Et il te sort ça en quelques secondes.
Et c'est vrai que les résultats sont bluffants. Et le truc, c'est que là il y a quelques jours, tu as eu la première campagne de pub réalisée par Midjourney. C'est-à-dire c'est Martini, tu sais, les apéros, là. Ils ont demandé à Midjourney, fais-moi ma campagne de pub, donc 9 visuels qui vont être affichés et tout. Et qui sont tout à fait probants, assez classiques finalement, mais tout à fait probants. Et là où il aurait fallu peut-être des semaines de travail à un directeur artistique, des graphistes, des illustrateurs, machin et tout.
Des sommes folles.
En une minute. Une minute.
Non, mais c'est incroyable.
C'est fou. Midjourney,
c'est
sur le truc.
Les agences
quoi.
De créa.
Mais c'est de la folie. Enfin, c'est de la folie.
C'est incroyable.
Moi, j'ai un de mes meilleurs amis qui est illustrateur, qui est un excellent dessinateur de bande dessinée et tout. Et franchement, il est. Enfin. J'en ai pas mal discuté avec lui, il est un peu à la fois fasciné et effrayé par ce truc-là, parce qu'à la fois, ça leur sert, les créatifs, c'est un outil aussi qui va leur donner des idées, tu vois, ça leur donne du grain à moudre, et après, ils peuvent aussi adapter leur travail en fonction des propositions artistiques de la machine. Mais le truc, t'as cette question de jusqu'où je peux me servir de la machine avant que ce soit finalement la machine qui fasse le boulot à ma place, quoi.
C'est ça.
Et ça, c'est très compliqué, quoi.
Oui, et quand ton client... se dira, c'est plus la peine que je prenne cet illustrateur, je vais aller directement sur DALL-E ou sur Midjourney.
C'est ce qui va se passer. Hein. Là, je ne sais plus quel éditeur au Japon va éditer un manga au mois de mars qui sera complètement conçu par l'intelligence artificielle. Et tu as des mecs qui font un business. Alors moi, j'ai regardé, ça m'a beaucoup intéressé, j'ai regardé beaucoup de tutos sur YouTube. il y a peut-être un business à monter, mais enfin là, je pense qu'il est trusté, il y a beaucoup de gens qui font ça. C'est que, en gros, tu demandes à ChatGPT de t'écrire une histoire. Donc tu lui dis, écris-moi une histoire pour enfant, qui raconte, je sais pas, un enfant qui rencontre un renard, qui... bon, c'est le Petit Prince, ça existe déjà. Ça a déjà été très bien fait par des humains. Donc tu lui demandes de t'écrire l'histoire. Une fois que tu as l'histoire, tu rentres l'histoire dans ChatGPT, dans Midjourney.
Ouais.
Donc Midjourney te dessine l'histoire. Et ensuite, bah, tu auto-édites ça sur Amazon et tu vends le bouquin. Et tu as des mecs qui ont fait ça. Et vraiment, tu, à partir de rien et en l'espace de 30 minutes, tu as un bouquin qui est écrit et qui est en vente et qui va être acheté par certains. Et voilà, c'est fou, quoi.
Alors, le petit souci, si on reprend l'exemple de Martini, malgré tout, tout n'est pas rose dans ce système-là parce que il y a des problèmes de droits d'auteur. C'est-à-dire que finalement, tous ces services d'intelligence artificielle piquent des images un peu à droite à gauche, vont les modeler, les transformer. Mais évidemment, ça pose des problèmes de droits d'auteur.
Exactement. Et ça, on a vraiment un dilemme juridique. Là, je ne sais pas comment on va le résoudre. Et aux États-Unis, tu as eu le premier procès, là, il y a quelques jours, enfin, une action en justice qui a été lancée par des artistes contre les créateurs de Midjourney. En leur reprochant précisément ça, c'est-à-dire en disant « Mais attendez, il y a un moment, votre intelligence artificielle, très bien, alors elle agrège finalement des données, elle crée quelque chose, mais elle crée quelque chose à partir de milliards d'images qui ont été scrapées, en fait, qui ont été siphonnées sur Internet sans demander d'autorisation à personne. Et ces images-là, elles ont été créées par des vrais artistes. Donc, est-ce qu'on n'aurait pas le droit à une rétribution à un moment? Surtout si c'est utilisé ensuite commercialement, comme là par Martini, mais il y aura plein d'autres exemples comme ça. » Donc qu'est-ce qu'on fait? C'est un vrai sujet, quoi. Et je pense que là, pour le coup, cette action en justice, alors c'est trois artistes, mais je crois qu'ils l'ont fait sous forme de... Ça peut se transformer en class action, donc peut-être que tu vas avoir d'autres personnes qui vont se mêler à ça, mais ça va être, je pense... une fois, boîte de Pandore, là, on l'a ouverte, mais on n'est pas prêt de la refermer, hein, très clairement.
ChatGPT aussi, voilà, c'est un puissant fond de réflexion, d'analyse. On pourra en parler encore pendant une demi-heure. Hein. Imaginez un robot connecté à ChatGPT. Moi, c'est ça.
Ah ouais, ça va être fou.
Un assistant vocal. Enfin, on va se retrouver à discuter, à avoir des conversations, en fait, avec des machines. Le jour, alors ça existe, il y a déjà des essais, mais le jour où on va industrialiser la voix avec une intelligence à la ChatGPT.
Ouais,
ça va être incroyable.
Et tu vas avoir un vrai sujet justement, mais enfin on aura l'occasion d'en reparler de ça, hein, mais autour de l'attachement émotionnel. Le vrai sujet, il est là plus
bien sûr.
Les mecs, quand on pointe les dérives de ChatGPT, c'est on peut créer des malwares avec, on peut diffuser des fake news. Moi, pour moi, il y a un vrai truc, ça va être effectivement le fait que tu puisses tomber amoureux d'une machine, et qu'on va pouvoir aussi t'arnaquer en utilisant ces outils-là. Donc, enfin là aussi, hein, il va y avoir des sujets énormes.
Les arnaques qu'on va avoir sur Facebook, tu sais, tous les trucs de drague bidon, là, etc. Ça va être un carnage.
C'est ça, ce ne sera plus le mec qui ne sait pas écrire
qui est de l'autre côté de la planète. Là ce sera un robot qui va balancer des millions de trucs et qui gérera les sentiments de millions de gens.
Et qui pourra aller récupérer des éléments sur ton profil, donc te parler de manière ultra personnalisée, donc tu auras tout ça. Mais après, gardons aussi en tête, parce que c'est aussi un outil formidable,
c'est un truc génial
en termes d'apprentissage, de productivité. Il y a plein d'applications.
Mais c'est à l'image de toutes ces innovations, hein. Internet, c'est formidable, mais en fait, il y a le pire et le meilleur sur Internet.
C'est toujours l'usage qu'on en fait. Hein,
exactement, et ChatGPT sera pareil. On change de sujet, on y reviendra bien sûr. Les déboires des GAFAM, parce que là aussi, ça a été, enfin, c'est plus que cette semaine, hein. Ça fait des semaines et des semaines que les GAFAM vont mal. Évidemment, le contexte économique, contexte géopolitique, et donc on voit des dizaines et des dizaines de milliers d'emplois qui disparaissent, Anthony.
T'as la liste, non? Je les ai notés quelque part, moi.
Sait, hein,
Meta
Google,
11 000, Google 12 000, Microsoft 10 000, Amazon 18 000, on peut égrener la liste, hein. Là,
Twitter,
c'est le plus gros. Twitter, je crois que c'est 4 000 chez Twitter.
Spotify, bon, c'est quelques centaines de personnes, parce que c'est une boîte qui est plus petite,
Coinbase,
alors même s'ils sont européens, hein, Spotify.
Oui, absolument. T'as toutes les boîtes de crypto aussi, enfin vraiment. Oui, là,
IBM, là.
IBM, absolument. Enfin,
donc ça fait quand même du monde. Et voilà, on se dit, en plus, il faut savoir qu'aux États-Unis, on embauche comme on vire, c'est-à-dire que du jour au lendemain, tu fais ton petit carton, tu t'en vas, c'est comme dans les séries télé, quoi.
Je sais pas si t'as pas mal de vidéos virales là, de mecs de Google qui se sont fait virer, qui filment le moment où ils se font licencier. Mm-hmm. Tu sais, donc t'as la vidéo TikTok d'une personne, d'une salariée de Google, donc qui raconte sa journée chez Google. Donc, elle fait tout ce truc. J'arrive dans l'entreprise, donc dans le super Googleplex, machin et tout. Je prends mon petit déjeuner gratuit. J'ai ma journée et tout. Et puis, à la fin de la journée, elle reçoit des alertes et tout. Et puis, elle se rend juste, elle est virée en une seconde, quoi. C'est vraiment pas le truc.
Ah oui, 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 on prend pas
de pincettes, quoi.
Non, on
là,
met pas de gants, là.
Hein. Effondré, quoi. Et t'es, bah ouais, en fait, c'est, ça se passe comme ça.
Ouais. Bon, bah alors, ce qui est intéressant, c'est que on parle beaucoup de ces licenciements massifs dans ces boîtes. Ces boîtes sont représentées en France, mais typiquement, enfin, curieusement, l'impact des licenciements en France est moins fort. Alors, c'est un détail, hein, mais par exemple, Google, qui a sans doute, je ne sais pas moi, des centaines et des centaines d'employés en France, c'est beaucoup plus compliqué pour Google de virer des salariés qui travaillent pour Google en France. Ouais. Et donc, il y a cet airbag aussi social ici.
Ah bah bien sûr.
Et de la même chose pour Microsoft, pour Facebook, etc.
Ouais,
ça, c'est intéressant.
Absolument.
Bon, est-ce que tout ça, parce qu'on peut se dire, voilà, il y a eu le Covid, donc toutes ces boîtes ont été obligées d'embaucher énormément. On se rend compte que le Covid, on en sort bien heureusement et qu'on reprend une vie à peu près normale, moins digitale. Et donc, forcément, comme elle est moins digitale, bah, y avait trop de monde qui travaillait à l'époque. Et, et voilà, ces boîtes respirent, en quelque sorte.
C'est exactement ça.
Est-ce que ça peut avoir un impact sur l'innovation, à ton avis? Parce que c'est la question qu'on peut se poser.
Ouais, absolument, t'as raison. Ouais, je pense que là, alors c'est intéressant de regarder justement dans le détail là où on va couper dans les effectifs, dans les différentes entreprises. Alors c'est un recensement qui a été fait par le site d'Information, qui est en général assez bien informé. Et je trouve que c'est assez intéressant. Alors on peut se focaliser sur Google, Microsoft, Amazon, on pourrait faire les autres aussi. Mais alors par exemple, chez Google, visiblement, c'est à peu près toutes les branches qui vont être concernées, donc à la fois Chrome, Android, le cloud, etc. Mais il y a une branche...
Si, excuse-moi, je te coupe, mais je ne sais pas si tu as vu ce truc-là, alors ça me fait rire, mais en fait, Google a licencié 20 masseurs thérapeutes, en fait.
Oui, les fameux, ouais.
Tu sais, parce que dans le Googleplex, donc en Californie, ils ont une ville entière. Et ils ont... je ne sais pas combien de cuisiniers, enfin c'est une vraie ville quoi. Ils ont donc dans ce plan viré 20 masseurs.
Les masseurs,
quoi.
Est-ce qu'ils font partie un peu du fantasme de la ville de la Silicon Valley?
C'était une petite parenthèse,
mais
pour vous dire qu'en fait il y a tous les corps de métier.
Ouais, mais justement je trouve que c'est hyper intéressant cet exemple, je n'avais pas vu moi ça. Mais je pense que, parce qu'en fait le fait que en gros on se rend compte que ces grands groupes technologiques, bah, c'est des entreprises comme les autres quoi. C'est-à-dire qu'elles nous ont vendu un rêve de l'entreprise opulente qui fait tout pour ses salariés,
avec le baby-foot et les croissants gratuits,
les toboggans pour aller au bureau, tu vois, enfin vraiment.
Là c'est plutôt le toboggan pour partir directement.
C'est clair, le toboggan t'es viré, là c'est clair, il t'emmène directement dans l'océan Pacifique. non mais c'est vrai, et on avait cette image là et en fait on se rend compte que là elles virent comme tout le monde de manière assez rude et impitoyable, et que effectivement ça concerne à peu près tous les corps de métier. Et donc effectivement les masseurs, je pense que c'était l'une des icônes, l'un des emblèmes en fait de cette
Silicon Valley. Mais on ne savait pas, moi je ne savais pas qu'il y avait des masseurs employés par Google.
Mais si tu sais, je te conseille, regardez, tu as l'histoire je ne sais pas si c'était un homme ou une femme, le premier ou la première masseuse de chez Google qui est devenue millionnaire. C'était genre la salariée numéro, je ne sais pas, tu vois, 10 ou 20, et qui a gagné une fortune parce qu'elle était payée en stock au début.
Bien
et
sûr.
Voilà, quoi. Ouais. Enfin, bref. Comme le peintre de chez Facebook, tu sais, le mec qui était venu peindre les murs.
Oui.
Faire la fresque murale et tout ça, et on l'avait payé en stock, c'était au tout début de Facebook, et le mec il a gagné des je sais plus combien de centaines de millions. Il y a des histoires incroyables comme
non,
ça.
Mais c'est génial, mais c'est ça qui est incroyable.
Bref.
Mais même en France, hein, y a des salariés d'Iliad, par exemple de Free, qui sont arrivés au tout début et qui se retrouvent avec des petites fortunes finalement.
Mais je pense que
parce qu'ils étaient payés en stock option.
Mais ceux qui bossent, moi je pense souvent à ceux qui bossent dans les licornes françaises qui ont émergé, tu vois, les premiers salariés de Ledger, de Doctolib, de Blablacar, il y a un petit peu plus longtemps. Je pense que c'est pareil, tu vois, ça doit être.
Et qui sont récompensés par le d'être là au bon endroit, au bon moment.
Ah ouais, c'est ça, ils ont fait une prise de risque aussi, ils sont récompensés pour ça. Mais donc, du coup, quand on regarde un petit peu dans le détail, donc Google. Toutes les branches sont touchées, sauf une, c'est la branche Brain, intelligence artificielle. Donc, ça rejoint ce qu'on disait sur ChatGPT, c'est-à-dire qu'en gros, là, ils sentent la menace venir. Donc là, on ne touche pas et on va mettre des moyens sur ce secteur-là. Chez Microsoft, c'est marrant parce qu'ils vont en profiter pour sortir de choses dont ils commencent à voir les limites en termes de potentiel. Par exemple, la réalité mixte. Alors, peut-être que c'est aussi un coup dans le fantasme du métaverse, mais tu vois, toute la division HoloLens, par exemple, ils vont pas mal tailler dans les effectifs, leur fameux casque de réalité mixte. Ils vont tailler aussi un peu dans le jeu vidéo, chez Bethesda notamment. Et chez Amazon, ils vont virer pas mal d'innovations, effectivement, alors sur lesquelles ils travaillaient depuis des années, du genre les drones de livraison. Donc ça, ils vont pas mal tailler dans les effectifs, visiblement. et dans les fameuses Alexa, enfin les petites
enceintes connectées. Les Echo Show, tous ces trucs-là.
Ouais,
mais c'est bizarre parce qu'ils ne vont pas arrêter, tu vois.
Non,
ils ont investi des dizaines et des dizaines de milliards. Ils vont... Enfin, je veux dire, tu ne peux pas te dire du jour au lendemain, parce qu'il y a une turbulence, on va arrêter Alexa, c'est pas possible.
Non, ils vont pas arrêter, mais je pense qu'ils se sont rendus compte, tu sais, ils l'avaient dit hein, d'ailleurs, que Alexa, c'était un peu en dessous de leurs espoirs, c'est-à-dire qu'ils imaginaient tout un écosystème autour d'Alexa, un truc de fou, et en fait les gens ils s'en servent...
Un outil pour vendre encore plus.
Ouais, c'est ça, et en fait les gens ils s'en servent de minuteurs pour les pattes, quoi, donc il y a un moment, si tu veux, si c'est vraiment le seul usage que les gens en ont, lancer un morceau de musique et mettre leur réveil, ça sert à rien de mettre des dizaines de milliards en recherche
mais d'un
et développement.
Côté, regarde, tu connectes ChatGPT à un Alexa.
Ah oui, ah.
Peut-être que tu pourras vendre plus de choses, parce que l'intelligence te permettra d'avoir un vrai dialogue et ça sera peut-être plus pertinent. Tu vois,
c'est vrai, c'est vrai.
Aujourd'hui, Alexa, c'est un enfant de 6 mois, ChatGPT, c'est un ado de 15 ans, quoi,
en
termes de réflexion.
Ah, absolument.
Tu peux te dire, voilà.
Non, mais je pense pas qu'ils vont, enfin, ils vont pas arrêter, si tu veux, mais là, ils sont en train de rationaliser un petit peu et c'est ce que tu disais, de virer un peu les excès. Du Covid, c'est vrai que Amazon, ils ont doublé d'effectifs en l'espace de 2 ans. Il y a un moment,
et puis il y avait des tonnes de produits. Je ne sais pas si tu te souviens de ce drone qui volait dans les maisons, qui surveillait en fait avec des caméras. Moi, je trouvais ce produit génial. J'espère qu'ils vont pas l'arrêter, mais c'est vrai qu'ils sont partis loin, quoi, dans des délires.
Tu avais le petit robot majordome aussi, là.
Tout à fait. Est-ce que tout ça va disparaître?
Écoute,
on verra parce que comme chaque année, au même moment, au printemps en général, ces boîtes-là font des conférences de presse où ils annoncent un peu leurs nouveautés. On verra si tout ça disparaît ou pas.
Bah, j'espère pas. Enfin, j'espère vraiment qu'on aura des trucs excitants à la Google I/O, à la conf intelligence artificielle d'Amazon, aux conférences de Tesla et tout ça. Enfin, nous, c'est ce qui nous enthousiasme aussi, tu
évidemment.
Vois. Il faut qu'il y ait... Alors des fois, parce que t'as raison. Il y a des trucs. Quand tu dis ils sont partis loin, c'est que des fois il y a des trucs, c'est complètement what the fuck. Tu vois, c'est un peu comme au CES de Las Vegas. La moitié des produits, tu te dis ok, c'est rigolo, mais jamais personne n'achètera ça en fait. Mais c'est ce qui fait aussi la beauté du secteur tech, quoi. C'est que tu vas avoir 1000 idées et sur ces 1000 idées, il y en a 10 qui survivront qui vont rapporter des fortunes. Et le reste, ça finira au musée
des trucs
de la tech.
C'est
quoi.
Ça.
C'est quand même super marrant parce qu'il y a des gens qui ont eu ces idées-là, qui les ont développées, qui ont mis leur énergie, toute leur énergie dans ces projets-là. Enfin, voilà, c'est ce qui est beau avec ce secteur, je trouve. Donc j'espère vraiment que ces grands groupes qui portent quand même l'innovation au niveau mondial, ils continuent à mettre des gros
budgets dans l'innovation. Il y a toujours de la casse, en fait, parce que c'est ça. C'est cette casse-là qui fait que on se rend compte qu'il faut aller dans telle direction, qu'accidentellement on va découvrir un nouvel usage qui va être révolutionnaire, etc.
Beaucoup d'argent. Il faut être prêt à brûler de l'argent et à dire on s'en fout.
C'est pas la bonne saison, on va dire. C'est pas le bon moment.
Le timing est mauvais, c'est ça. Et je crains, tu vois, on parle beaucoup du métaverse. Là, pour le coup, ça va être un sacré coup dur, parce que pour le coup, tu vois, tout le monde est en train de rationaliser. Bon, ça prend quand même moyennement pour l'instant. Donc, est-ce qu'ils vont pas passer complètement à autre chose? Ça va être une grande question, je pense.
C'est Mark Zuckerberg, le premier visé, là, pointé du doigt, parce que c'est lui qui tient, en fait, son projet métavers à fond.
Complètement.
Il a déjà dépensé beaucoup, 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 beaucoup d'argent. Est-ce qu'il décide de tout arrêter ou de continuer? Il a des convictions fortes.
On entend beaucoup moins parler, là, en ce moment.
Ouais.
Là, franchement,
il est très, très, très silencieux.
C'était que ça.
Franchement,
là, pendant un an, c'était que ça. Toutes les semaines, du métavers, du métavers. À commencer par DQJM, même, parce qu'on suit l'actualité.
Bien sûr.
Mais là, j'ai l'impression que c'est vraiment... Métavers, on n'entend plus trop parler, quoi.
On parle moins d'Elon Musk, mais on en parle quand même un peu avec Twitter qui, justement, toujours dans cette logique de rationalisation des coûts, fait des trucs incroyables. Il vend ses meubles, c'est-à-dire que les locaux de San Francisco, de Twitter, qui étaient prestigieux, comme toute boîte américaine flamboyante à l'époque, vend là, mais tout, c'est-à-dire des machines à café aux tables en passant par les éléments de décoration, quoi.
C'est ça. Ils ont fait une vente aux enchères, en fait. Je ne sais pas s'il va vendre sa chemise, Elon Musk, mais en tout cas ils vont les meubles, ça c'est sûr. Alors il y a même des éléments un peu mythiques, tu sais, genre le gros oiseau bleu qui trônait à l'entrée et tout, et ça s'est vendu, je crois que c'est 40 000 $.
C'est un super truc, c'est tellement beau, ça,
j'avoue, si j'avais les moyens.
Ça,
dans ton salon, c'est pas mal.
Il faut avoir un grand salon,
il faut avoir un beau salon, c'est vrai, mais ça fait son petit effet quand même. Je crois que 40 000 $, je sais plus si c'était la mise à prix ou si c'est le prix auquel il a été vraiment vendu, mais enfin en tout cas il y avait un peu de c'est quelques objets qui ont rapporté un peu d'argent. Ce qui est marrant aussi, c'est que il a arrêté de payer ses loyers. Tu te rends compte un peu.
En France notamment.
Alors en France, je sais aussi en France, je sais pas. Ouais, peut-être.
Je crois qu'il y a eu un truc comme ça. Ouais. Je crois qu'il y a eu un problème de paiement de loyer, etc.
Moi, j'ai vu en Angleterre là il y a quelques jours, à leur siège londonien, et donc ils ont.
Ah
dû,
non, pardon, c'est en Angleterre, c'est pas en France.
Et d'ailleurs, tu sais, ils se font virer par en fait par le roi d'Angleterre, parce que le siège appartient à la couronne d'Angleterre. Donc, enfin, tu vois.
C'est fou.
C'est marrant parce que c'est marrant. C'est vraiment la stratégie du mauvais payeur. J'imagine que c'est pour pouvoir négocier les loyers à la baisse, quoi. Mais ce qui est une stratégie de grippe sous, enfin, tu te dis, encore une fois, on en revient à ce qu'on disait avant sur la Silicon Valley qui avait toujours cette image d'opulence et tout. Et là, tu te rends compte que c'est une gestion, mais enfin, c'est même pas de bon père de famille.
Non,
gestion de mec qui serre les cordons de la bourse à fond pour essayer de gratter chaque dollar.
C'est
quoi.
Des économies qui coûtent cher parce qu'après, tu paies des majorations, tu paies des procès. Enfin, c'est tout ça est un peu bizarre. Mais bon.
Ben oui, mais je pense que c'est
mais
vraiment.
Ça peut-être la détresse financière de Twitter. Hein.
Ben, c'est-à-dire Musk, il l'a dit. De toute façon, il a dit je suis en mode réduction des coûts parce que sinon, on met la clé sous la porte. Quoi, on se met en faillite. Quoi. Et c'est lié aussi au fait, on le voit bien, qu'il est en train de chercher un modèle économique
c'est
avec les abonnements payants. Avec, là, tu as vu qu'il allait lancer un abonnement sans pub. Mais qui coûtera encore plus cher, donc ce sera encore en plus des 8 dollars ou 10 dollars que tu payes pour avoir la certification.
Netflix fait le sens inverse, enfin, c'est ça.
Exactement.
Et là, en fait, tu auras un Twitter premium sans pub,
ouais.
Mais tu paieras
mais
pour
tu
ça.
Tu paieras, exactement. Et il y aura aussi ce truc où ils veulent permettre aussi de récompenser des contenus qui t'ont plu. Un peu comme sur Reddit, tu sais, les Reddit coins où t'achètes en fait des coins et tu vas pouvoir donner des récompenses à des publications qui t'ont paru intéressantes. Ça, je trouve que c'est pas mal, moi.
C'est pas mal.
Parce que tu vois, sur Twitter, je sais pas pour toi, mais souvent, il y a des contenus, genre des trends hyper intéressants, historiques,
bien
technologiques.
Bien sûr, t'apprends plein de choses.
T'apprends plein de choses et tu peux les récompenser par un like.
Ouais,
et des fois, tu te dis, bah, en fait, si je pouvais donner 1 ou 2 euros, je les donnerais avec plaisir.
Bien sûr.
Donc ça, ça peut être une bonne idée.
Voilà pour l'actu de cette semaine. Merci Anthony.
Bah merci à toi. Merci
bon,
à tous.
Je pense qu'on aura d'autres sujets encore plus passionnants la semaine prochaine. Anthony, que vous retrouvez donc tous les matins sur BFM Business, sur RMC et RMC Story aussi, avec Estelle Denis. Et puis vous restez avec nous. On enchaîne dans un instant avec mon deuxième invité, un spécialiste de la maison connectée. C'est un sujet aussi qui t'intéresse beaucoup. Ouais. On va parler de Matter, donc ce fameux protocole qui va, en théorie, espérons-le, révolutionner notre maison connectée. On en parle dans un instant. À tout de suite.
De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co. BFM Business et Tech & Co présente De quoi je me mêle. François Sorel.
Le retour de quoi je me mêle et comme promis, on va se plonger dans la maison connectée avec évidemment beaucoup de promesses. Voilà un confort au quotidien qui est complètement changé, hein, avec les assistants vocaux, avec la sécurité, avec des automatismes qui sont mis en place. Et puis aussi, bien voilà une petite révolution dans ce monde des objets connectés qui est assez complexe quand même. C'est Matter, c'est un on va dire un concept, un standard en fait de discussion en fait entre tous les objets connectés qui facilite en théorie les choses. On va en parler avec un vrai spécialiste que je suis très heureux d'accueillir sur le plateau de quoi je mêle, c'est Albert Bouchoucha.
Bonjour.
Merci
Bonjour,
d'être
François.
Là Albert.
Bonjour, merci.
Alors voilà, c'est Monsieur Maison Connectée, Albert, c'est son métier, hein, on est d'accord, hein, c'est ton métier.
Oui, c'est mon métier depuis quelques années maintenant.
C'est ça, tu es voilà, le patron de domotizy.fr, hein, si vous voulez avoir plus d'infos sur la maison connectée, je vous invite à aller sur ce site. Tu es speaker, intervenant, tu suis toute l'actualité, le CES de Las Vegas. Là, bientôt, il y a un salon qui s'ouvre
à Barcelone, voilà. Qui démarre dans quelques jours, mardi le 31.
Voilà, et qui va avoir une grosse partie dédiée
à la maison
connectée.
C'est dédié à tout ce qui est intégration, maison connectée, audio, vidéo, enfin tout ce qui fait que l'intégration d'un bâtiment et d'un système connecté.
Ouais, passionnant tout ça.
Hein. Ah ouais, c'est super passionnant.
Et alors, ça fait des années qu'on est là-dessus, et ça fait des années, Albert, qu'on rage, parce que c'est vrai que quand on commence à s'intéresser à la maison connectée, on se rend compte de tous ses avantages, évidemment de tout le confort que ça apporte. Mm-hmm. Mais malgré tout, pour le Kidam, c'était compliqué.
C'est vrai.
Et là, visiblement, on vient de passer une étape importante avec Matter.
Alors Matter, alors pour un professionnel comme moi, Matter c'était inespéré presque. Ça fait des années et des années qu'on attend ça. On espère que ça va bien fonctionner. En tout cas, c'est bien parti. Aujourd'hui, Matter, c'est plus de 220 participants. C'est tous les GAFA qui sont en tête de ça, avec les assistants vocaux. Et puis surtout, au niveau technologie, ils ont vraiment pris les deux protocoles les plus sûrs au niveau sécurité et les plus fiables au niveau technologique, avec Thread, avec Wi-Fi, avec le Wi-Fi et avec l'IP. C'est l'Internet Protocol, en fait. IP, beaucoup ne le savent pas, mais IP, ça veut dire Internet Protocol.
Oui, la voix sur IP, c'est
exactement,
Internet Protocol.
Exactement, et c'est finalement le protocole le plus sécurisé et le plus fiable aujourd'hui. Avec, en plus de l'IPv6, avant on était en IPv4, maintenant on est en IPv6, donc encore plus de couches, encore plus de sécurité. Et finalement, ça va universaliser, on va dire, tous les objets connectés. Pas que pour la maison connectée, ça va aller bien plus loin, on le sait, hein, ça c'est qu'une première étape. Et puis on aura multitude de nouveaux fabricants, énormément de nouveaux produits, et puis une facilité d'installation incroyable.
Explique-nous un petit peu ce que ça change concrètement, parce que toi c'est ton métier, explique-nous ton métier, tiens. Qu'est-ce que tu fais au quotidien? Quels sont tes clients et tu fais quoi avec eux?
Alors mon métier c'est de préconiser les meilleures solutions, pour rentrer, si tu veux, dans le budget du client. Ça peut être un client professionnel, ça peut être un particulier.
Et moi, je viens de voir, je veux une maison connectée.
Voilà.
Je vais te
préconiser, je vais te faire toute l'étude. Aujourd'hui, si on veut vraiment une maison connectée fiable, il faut faire une étude au préalable. Et donc, alors c'est sûr que Matter va un petit peu éliminer ça, mais une maison connectée, par exemple, qui fait 100 ou 200 mètres carrés, on pourra pas la faire que avec Matter. Faut bien comprendre ça. Ça reste quand même des produits grand public. Après, si on veut faire vraiment un lieu connecté, il faut passer sur des protocoles comme KNX ou au niveau filaire, voilà, des protocoles très fiables où avec on fait des immeubles entiers, etc. Donc en fait, c'est un mix des deux et pour avoir quelque chose de fiable, d'évolutif, de très sécurisé, bien sûr, et puis surtout maîtriser la maison connectée, savoir faire des scénarios, parce que tout va dépendre de l'usage que tu vas en faire aussi.
Ouais,
tu peux avoir une maison connectée, mais ce qui reste très important, c'est l'usage.
Quels sont les usages les plus demandés aujourd'hui, quand on vient de voir, c'est quoi?
Alors aujourd'hui, les usages, c'est bien sûr lié sur les économies d'énergie, parce que bon, c'est un sujet
c'est
vraiment incroyable, voilà. Alors, c'est sûr qu'on ne fait pas des miracles que avec les objets connectés. C'est toujours pareil. Hein. Moi, je dis à mes clients, si vous avez une maison qui est mal isolée, vous pouvez mettre
toute la technologie que vous voulez. Mettez l'isolant déjà.
Voilà, exactement. Donc, c'est sûr que c'est un maillon de la chaîne très important. Si on a une maison isolée avec un produit, avec une régulation connectée, on va dire, de votre chauffage ou de votre climatisation, on arrive à des 25-30% d'économie d'énergie. Donc, c'est assez conséquent.
Ouais, c'est pas mal. Quand
Encore
même,
faut-il hein. que ce soit bien réglé, bien programmé.
Et puis, on amortit donc l'investissement qu'on va faire.
Exactement.
Donc, ce que te demandent les clients, c'est des économies d'énergie.
Économies d'énergie, du confort, bien sûr, et de la sécurité. Au départ, il y a 10 ans, on mettait le confort en premier. Après, la sécurité passait en premier. Aujourd'hui, c'est les économies. Donc, en fait, c'est les trois thèmes.
Qui sont de temps en temps prioritaires. En fait,
exactement,
ils changent de priorité, c'est ça?
Exactement.
Suivant on va dire.
Mais aujourd'hui, avec les solutions qu'on a, je veux dire, on arrive à allier les trois sans problème, c'est-à-dire la sécurité, le confort et bien sûr les économies d'énergie. Mais à partir du moment où tu maîtrises ta régulation, où tu as un système, je veux dire, bien sécurisé, après, c'est que du bonheur. C'est vraiment que du bonheur. J'entendais parler dans tes émissions, par exemple, tu dis que c'est un vrai enfer de faire une maison connectée aujourd'hui lorsqu'on s'y prend un petit peu seul. C'est vrai que c'est un peu compliqué. Alors, Matter va un petit peu faciliter tout ça.
Ouais.
Mais quand c'est bien fait, c'est un vrai paradis.
Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'on peut tout connecter dans la maison, hein, que ce soit les ouvertures.
Ce qui est aussi génial, c'est les automatisations. Ouais. La maison devient aujourd'hui vraiment très intelligente. Aujourd'hui, on arrive à faire du bioclimatique, c'est-à-dire on arrive à rien qu'avec trois éléments, avec trois sondes, c'est-à-dire la température extérieure, la température ambiante et l'ensoleillement. on arrive, par exemple, à d'abord faire agir les volets, d'abord faire agir les stores, d'abord faire agir tout un tas de pare-feux avant de mettre la climatisation ou le chauffage en route.
C'est ça.
Voilà. Et donc, c'est toute cette intelligence que la
Surtout,
maison...
Surtout, il y a aussi une notion de prédiction. C'est-à-dire que souvent, enfin, pas souvent, mais ça peut être connecté à la météo.
Exactement, c'est connecté, bien sûr.
Et anticiper, en fait, les aléas climatiques.
Exactement, exactement. On l'a vu, rien que la sortie du HomePod mini, là, c'est incroyable ce qu'ils ont fait Apple, puisqu'ils ont mis, ils avaient prévu déjà ça il y a plusieurs années, parce que le HomePod mini, il est sorti il y a à peu près 2 ans, et ils avaient mis déjà des capteurs à l'intérieur.
Mais qui n'étaient pas activés.
Qui n'étaient pas activés et qu'on peut activer depuis hier. Voilà, j'ai fait l'essai hier et ça marche très bien.
Donc, capteur de température et d'humidité, je crois,
qui remonte directement sur l'application HomeKit, et déjà, vous avez 2 valeurs. Et avec ces valeurs, si derrière vous pouvez mettre vos volets, votre chauffage, etc., déjà vous pouvez faire déjà des petits scénarios et des automatismes. Il y a une grosse différence entre un scénario et un automatisme. Hein, ça, c'est... Parce que l'automatisme, finalement, il se fait tout seul.
Oui.
Voilà. Par rapport à un événement. Mmh. Tandis qu'un scénario, c'est toi qui le lances.
Oui.
Je pars, j'arrive, je vais en vacances, etc.
Revenons à Matter. Avant Matter, pourquoi c'était la galère? Et après Matter, pourquoi ça va être plus simple?
Alors, avant Matter, c'était un peu la galère, puisque chacun produisait des produits un peu de leur côté, avec leur protocole propriétaire, et puis on était un petit peu bloqués dans des univers différents. Aujourd'hui, grâce à Matter, on va pouvoir avoir une panoplie de produits qu'on va pouvoir interagir et interconnecter ensemble, c'est-à-dire...
Même de marques
de concurrentes. De marques différentes et de même systèmes différents. C'est-à-dire que vous allez pouvoir... allumer une lumière d'un fabricant X avec votre application Y, quoi. Je veux dire, tout va pouvoir s'interconnecter ensemble avec le même protocole et toujours en enlevant de son esprit le problème de la sécurité. C'est ça aussi. Parce que vous avez la même ligne de sécurité pour chacun. Chacun est la même à partir du moment où les produits sont passés par les laboratoires du CSA. À partir du moment où le produit est marqué Matter, on est sûr que c'est un produit sécurisé. Donc ça nous donne par exemple accès à des fournisseurs entre guillemets chinois où on avait peur préconiser ça à nos clients. Mmh. Et donc, tous ces fournisseurs-là, aujourd'hui, à partir du moment où ils sont Matter, on va se poser de questions. Quoi. On va
c'est
y
un
aller.
Peu, voilà, c'est un label de qualité. Exactement. Aussi, c'est au-delà de la standardisation, c'est un label de qualité.
Exactement.
Est-ce que tout le monde prend le train de Matter aujourd'hui, ou est-ce que tu as encore des réticences?
Alors, c'est là où tout va jouer, en fait, parce que si tous les fournisseurs et tous les fabricants jouent le jeu, ça va prendre une ampleur incroyable. Si par contre, par exemple, on a très peur que Apple, il va se servir des produits Matter de tout le monde, mais il va pas ouvrir les siens. Voilà. Un exemple.
Parce qu'en fait, il y a plusieurs niveaux de Matter, en fait. À partir du moment où tu signes en bas d'une page en disant, j'accepte, je vais participer au protocole Matter, en fait, il y a plusieurs étages.
Voilà, on peut y aller à 100%. On peut y aller à partir où on peut faire par rapport à des bridges.
Ça, c'est un peu dommage.
Voilà, c'est ça. Mais le but, c'est d'ouvrir le maximum et ça va aller de plus en plus vite. En fait, plus, entre guillemets, la mayonnaise va prendre, plus ce sera génial.
Tu étais au CES ou pas?
Oui,
ou
bien sûr.
Alors, est-ce qu'il y a des choses intéressantes? Comment tu as senti tout ça? Est-ce que les constructeurs sont tous supportent Matter, ou est-ce que tu sens qu'il y a quand même des réticences? Est-ce que tu as vu des nouveautés intéressantes aussi?
Alors, au niveau produit, on voit que ça démarre. Par contre, au niveau approbation du protocole, c'est fait. Ça veut dire que on voit par rapport à l'année dernière, c'était un CES un peu particulier. Cette année, il y a eu quand même beaucoup plus de monde, beaucoup plus de participants. Et je pense que 100% des participants de la maison connectée présentaient Matter. À un moment donné, il y avait du Matter partout. Mmh. Et on a vu même... Des fournisseurs assez incroyables, comme par exemple TP-Link. TP-Link, pour moi, c'était que des routeurs et des routeurs Wi-Fi. Ils ont fait leur solution Matter, d'ailleurs accompagnée d'une solution Wi-Fi en même temps. On a vu des fournisseurs comme Nanoleaf, qui fait normalement que de la lumière. Mmh. Et là, ils ont fait tout un écosystème avec des interrupteurs, avec tout un écosystème Matter.
Mais ça permet à certains constructeurs de s'émanciper en fait et de sortir.
Exactement.
De leur spécialité.
Par exemple, un fabricant comme Eve, le fabricant allemand qui était 100% Apple. Bah lui, par exemple, c'est vraiment une opportunité parce qu'il va pouvoir, lui, s'ouvrir à Google, à Amazon et à tous
c'est
les autres.
Ouais, donc, parce qu'aujourd'hui, Eve, bon, ils font pas mal de trucs. Moi, j'ai un arroseur connecté Eve, qui n'était pas terrible d'ailleurs parce qu'il n'était que Bluetooth. Enfin, c'était un peu la galère. Mais on peut imaginer que demain, je dis OK, Google, allume-moi l'arrosage.
Exactement.
Quoi,
et en plus de ça, avec.
Alors qu'avant, ce n'était pas possible.
Complètement. Avant, ce n'était pas possible. Ouais. On pourra même, avec le même device, c'est-à-dire le même appareil, le faire fonctionner sur Google et sur HomeKit en même
incroyable.
Temps. Incroyable. C'est ça qui est génial. Donc, ça donne des perspectives assez incroyables.
Albert, est-ce que la configuration de tout ça sera plus facile aussi ?
Alors, c'est vraiment le but. Hein. C'est aussi un des freins qu'a fait sauter ce système Matter. C'est que normalement, ce qu'on nous promet, alors j'ai fait des essais, c'est vrai que ça patine encore un petit peu, mais normalement, on reçoit un produit, vous le flashez avec le QR code, ça lui donne une identification unique, et à partir de là, il remonte automatiquement sur l'application, et on peut le faire interagir avec les autres objets connectés. C'est l'avantage de ce protocole.
L'application, il n'y a pas une application Matter ?
Il n'y a pas encore, non, enfin, il y en a plusieurs.
C'est-à-dire que, en fait, l'application Matter, ça va être l'application Amazon si on est Alexa, ça va être Google Home si on est Google, c'est ça ? Comment ça marche ?
Aujourd'hui, on est pratiquement obligé de passer par soit un Apple, un Google ou un HomeKit, ne serait-ce que pour la liaison à distance. Ça, c'est très important. Parce que tu sais que quand dans une maison connectée, ce qui est très important, c'est d'avoir son réseau local, c'est-à-dire que tout fonctionne grâce à ton smartphone ou à ta voix, mais aussi de pouvoir interagir à distance.
C'est ça.
Donc là, on a besoin d'un bridge entre Internet et le local, et là, c'est l'assistant. C'est l'assistant vocal, c'est Google et Amazon ou HomeKit. Ça va changer parce que il y a beaucoup ça va aller très vite. Il y a beaucoup de fabricants qui sont en train de sortir j'aime pas appeler box, des contrôleurs, on va dire, des contrôleurs Matter. Et on va pouvoir aussi, grâce à ces contrôleurs, avoir accès à distance à la maison. Donc ça va se faire dans les 6 prochains mois.
Albert, petite question. Est-ce que, à ton avis, le protocole Matter va faire aussi baisser le coût de l'équipement
bien
de
sûr,
la maison connectée ?
Bien sûr, j'allais en venir, bien sûr. Bien sûr, c'est évident. Parce qu'à partir du moment où il y a, entre guillemets, une concurrence un petit peu ouverte, en fait, on va aller chercher le meilleur produit de chaque marque. C'est ça qui est génial. C'est qu'on sait que tel ou tel fabricant est très fort dans tel ou tel domaine. Et en fait, on va aller chercher... pour ceux qui connaissent, entre guillemets, un peu KNX, par exemple, c'est un protocole filaire. On a vécu ça il y a une vingtaine d'années. Il y avait beaucoup de fournisseurs et chacun avait son protocole. Ils se sont tous réunis, ils ont fait une association. Et aujourd'hui, on peut prendre n'importe quel produit KNX et le mettre dans un système et ça fonctionne. Ben là, c'est pareil avec Matter, mais pour tout ce qui est radio.
Voilà.
Donc ça va être génial, quoi.
Et ben tout ça donne un peu le tournis, mais voilà, sachez que si vous vous intéressez à la maison connectée, préconisez plutôt aujourd'hui si vous devez acheter des objets, voilà. On commence à voir le logo Matter, on peut se renseigner sur Internet, etc. pour
voir s'il y a
une compatibilité.
Il y a une compatibilité. Le protocole le plus proche de Matter, c'est Zigbee.
C'est
vraiment le protocole le plus proche, le Zigbee 3. Mm-hmm. Faites attention, hein, pas les anciens, Zigbee 3. Voilà, si vous voulez aujourd'hui faire une maison connectée, surtout faites-le, parce que n'arrêtez pas maintenant. Parce qu'en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que Matter va pouvoir prendre les anciens objets connectés,
oui, c'est ça
aussi, c'est très
ça,
important,
c'est top, ouais.
Grâce à des bridges.
Enfin, pas tous les anciens, si. Ah oui,
pratiquement
d'accord.
Tous, parce qu'ils vont faire des bridges Matter, Matter Zigbee, Matter Z-Wave, Matter. Enfin voilà, et puis tous les protocoles. Tous les grands fabricants en France ont déjà leur. Alors certains vont rajouter une clé, certains vont. Ce sera juste une mise à jour. Voilà, tout ça, c'est en train de se faire, c'est passionnant. Et on attend, voilà, dans quelques jours, l'ISE pour voir si en Europe, on est à la même vitesse, on va dire, s'il y a la même impulsion. Et voilà, c'est en train de se jouer. Là, dans
les prochains mois. Que tu nous racontes tout ça. Bah, merci beaucoup, Albert, d'être passé sur le plateau de Quoi je me mail. Voilà, et de nous faire partager ton enthousiasme sur ce sujet. Albert Bouchoucha, donc. Et si vous voulez en savoir plus, Domotizy.
Voilà.
Avec un Y à la fin,
c'est très important.
Très important. Merci, Albert.
Merci.
Et ce De quoi je me mêle est terminé. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine. Merci de nous regarder peut-être devant votre télé sur la chaîne Tech & Co sur les box opérateurs, peut-être sur YouTube, peut-être écoutez-vous De quoi je me mêle. En tous les cas, merci de nous suivre et on sera là le week-end prochain. Salut à tous.
De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.